Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Salut et bienvenue sur Extraterrien, le podcast qui interviewe les plus grands athlètes français. Aujourd'hui, on retrouve Clémentine Geoffrey. Si tu ne la connais pas, sache qu'elle est probablement l'athlète trail la plus titrée de 2023. De mémoire, j'ai jamais vu une trailleuse française faire une saison aussi complète. En mars, elle est championne de France de trail court. En juin, elle est championne du monde en individuel et en équipe. Et en août, elle remporte la MCC à Chamonix. Et pour finir l'année, en octobre, elle termine numéro 1 mondial du classement Skyrunning World Series. Mais avant cette année resplendissante, Clémentine est passée par plusieurs années de doutes et de désalignement, avec notamment des troubles alimentaires. Elle va tout vous raconter, son changement de mindset et comment elle s'est affranchie de ses croyances négatives et comment elle s'est sortie de sa relation toxique avec l'alimentation qui l'empêchait vraiment d'exceller. C'était un épisode aussi passionnant que touchant, tant Clémentine est la preuve, par l'exemple, que plus une personne est heureuse, plus elle performe. La conversation est remplie de conseils, de développement personnel, donc n'hésite pas à prendre un stylo et quelques notes. Si le sujet des troubles alimentaires t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire sur YouTube ou sur Spotify, mais surtout à aller encourager Clémentine. Je t'embête pas plus et on démarre pour cet épisode génial. Eh ben salut Clémentine.
Salut Bart.
Comment ça va?
Bah là ça peut pas aller mieux, on est au soleil, sur la terrasse, face aux montagnes, donc c'est top.
Ouais, franchement je tiens à te remercier parce que j'étais vraiment impatient de te rencontrer et effectivement bah, moi je t'ai découvert cette année, j'ai vu cette année complètement riche en tout cas en résultats et dense et on va en parler un peu et... J'étais content de venir à Grenoble et on s'est eu au téléphone, le courant était bien passé. Et
yes.
J'aime beaucoup ce que tu dégages et quand tu m'as proposé de venir ici et prendre le soleil, ça pouvait pas se refuser. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent en audio, vous pouvez nous retrouver en vidéo, mais sachez que bon, on a une très grande vue sur Grenoble. C'est quoi le nom des montagnes qu'on voit face à nous?
Alors face à nous, on a Belledonne.
Ouais.
Je vais pas me faire taper sur les doigts. Je crois qu'en face, c'est j'ai peur de dire des bêtises.
Peut-être qu'on va se tromper.
Oui, non, bah, il y a Beldon, c'est sûr. Derrière nous, il y a la Chartreuse. Et par là-bas, il y en a d'autres, le Trièves, des choses comme ça. Ah, là-bas, on a le Vercors aussi, juste
d'accord.
Derrière. Voilà.
Bah, de toute façon, les auditeurs ne voient pas où tu montres,
non, ouais.
Où ton doigt se pointe. Donc, on avait droit à l'erreur. Mais en tout cas, ouais, on a beaucoup de chance. Il fait super beau. Donc, ça va être un super bon moment. Bien entouré par les montagnes. Donc, ça va nous faire prendre un peu de hauteur. Quelle année, hein?
Je te le fais pas dire.
je t'avais dit que je voulais ouvrir un petit peu ce podcast comme un bilan, et je me suis dit tiens, et ça pourrait être quoi la première question pour rentrer dans le sujet, et je me suis dit tiens, une question un peu marrante, c'est est-ce que si on s'était vu il y a un an jour pour jour, sachant qu'on est en plus la journée du sport féminin aujourd'hui, 24 janvier 2024 en plus, c'est assez marrant. Et si je t'avais dit que tu passerais une année aussi riche avec un titre de championne de France, de championne du monde, un double titre de championne du monde en équipe, les Skyrun, la MCC, est-ce que tu aurais cru?
Non, certainement pas. Ça, c'est, ouais, non, c'est sûr que en janvier 2023, du coup, j'étais, moi, je m'entraînais, hein, je préparais les crosses, donc j'étais quand même dedans. Mais non, jamais je me serais imaginé rien que d'être déjà dans un premier temps championne de France. Ça a été une consécration. Donc non, ouais, il s'en est passé beaucoup, beaucoup de choses cette année.
Ouais.
Et ouais, je suis super heureuse d'avoir accompli ce que j'ai pu accomplir. Et je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que j'ai mes petites clés de compréhension dans ma tête, dues à un changement, déjà profond de vie, sentimental déjà, et puis, même territorial. Enfin, du coup, je suis arrivée à Grenoble. J'ai découvert un nouvel environnement. Je pense que c'est hyper important pour moi de changer régulièrement d'environnement, ou du moins de me familiariser avec un nouvel environnement. Et celui-là, c'est vrai que je m'en rends compte après coup, mais c'est l'environnement idéal pour la pratique du trail.
Bien
parce
sûr.
Qu'on est au pied de la Chartreuse, donc il y a 1000 mètres de dénivelé qu'on peut se prendre direct là en partant de la maison. Et en même temps, tu descends un petit peu, tu es sur les berges, donc tu peux faire des séances à plat, donc pour préparer pour la complémentarité, tu peux aller faire du vélo, du ski.
Ouais.
Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et la recette a pris. Enfin, ça a fait un bel de beaux résultats, donc je suis trop heureuse.
Ok. Il y avait quoi comme ingrédient dans ta recette, hormis effectivement ce déplacement?
Alors donc le déplacement territorial, il y avait comme j'ai dit un changement total de vie sentimentale, mais même du coup de au quotidien, j'étais dans un autre état d'esprit en fait.
Ouais.
Et je pense que j'étais, justement, ça, je l'ai noté parce que je me suis dit, quel est l'état d'esprit propice à la performance? Et en fait, je crois que, pour moi, pour cette année, donc, ce sera pas tous les ans pareil, mais l'état d'esprit qui a été propice à la performance, c'est justement celui dans lequel je pensais pas vraiment à la performance. Je pensais, j'étais vraiment obnubilée par autre chose, par, cette nouvelle vie, ces nouvelles rencontres aussi que j'ai pu faire. Et au quotidien, c'était juste aussi profiter des opportunités que j'avais d'aller m'entraîner avec des copains, des choses comme ça. C'est ça qui me faisait vibrer aussi. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a aussi permis de progresser et de franchir des caps mentaux énormes.
Ok. Si je comprends bien et que je reformule un tout petit peu, c'est le fait de peut-être plus concis, d'avoir en tout cas priorisé ton épanouissement et ton bonheur. Mmh. Et c'est ça qui a amené à une performance pas forcément calculée ni planifiée, quoi.
Ouais, ça a vraiment été une libération quand même, hein, je peux le dire, parce que je pense que ces dernières années, j'étais dans une bulle, qui était un équilibre de vie qui était là, présent, mais je pense pas qu'il me satisfaisait totalement, suffisamment. Et je pense pas que j'étais très heureuse au final. Et le fait d'avoir finalement cassé cette bulle, et derrière, ça m'a vraiment permis de me libérer. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en compétition. Et d'ailleurs, ça a commencé dès les crosses où Ouais, j'ai senti que j'arrivais à aller plus loin que d'habitude. Alors ouais, c'est des barrières mentales, c'est peut-être la confiance en soi, je sais pas. Mais voilà, il y a ça qui a changé.
Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que cette année je faisais un peu mon objet mon bilan de l'année 2023 et je me suis rendu compte que j'avais quasiment échoué à tous les objectifs que je m'étais fixé en 2023 mais par contre je suis tombé amoureux, je suis tombé dans une relation, enfin j'ai rencontré une personne ultra saine qui m'apaise, qui me tire vers le haut tout le temps en fait il y a plein. Je me suis rendu compte après coup que mes objectifs avaient été mal fixés en fait, tu vois, et que au contraire, j'ai rarement été aussi épanoui que cette année. Et même si c'était pas des critères de performance que j'avais évalués il y a un an, en fait, aujourd'hui en étant beaucoup plus heureux, je regrette pas du tout en fait d'avoir tout échoué et je me rends compte à quel point effectivement l'équilibre émotionnel de vie. C'est une autre façon de voir la performance, tu vois, et que ça m'a permis d'être performant sur d'autres points, plus apaisé en tant que papa, en tant que sportif, ne plus avoir peur d'échouer aussi, tu vois, et j'ai pas mal échoué cette année, donc ça m'inspire beaucoup ce que tu dis. J'ai l'impression je me reconnais un peu en tout cas dans tes paroles.
C'est gentil et je pense que justement si t'avais pas vécu ça auparavant, c'est aussi l'expérience qu'on a pu avoir auparavant qui nous fait rendre compte de ces choses-là. Donc me dit c'est un mal pour un bien, enfin même si avant du coup j'étais dans une spirale, je me rendais pas compte parce que de toute façon t'es dedans et t'as rien connu d'autre, donc voilà, tu vis comme ça et puis tu dis mon niveau c'est ça et puis je peux pas prétendre à mieux, mais tu l'as un petit peu intériorisé au final, donc tu continues de faire les compétitions, tu fais ce que tu peux, mais c'est, je sais pas, j'y croyais pas spécialement. Par contre je continuais de le faire parce que j'étais dans une équipe, parce que il y avait mon coach, il y avait ci, il y avait ça. J'ai eu une bonne période de lassitude quand même, donc ça c'était il y a 2 ans maintenant, où j'ai même arrêté le coach. Et finalement, en reprenant petit à petit, et derrière, en reprenant justement avec un autre état d'esprit complètement différent, en fait c'est là que ça marche. Enfin c'est fou hein, parce que ça, d'un côté ça tient un peu de choses, et en fait d'un autre côté c'est tout ton état d'esprit qui a changé, donc en fait, ça tient à beaucoup. Et je dirais pas qu'aujourd'hui je suis très équilibrée dans ma vie. Enfin, je pense pas être encore au top de l'équilibre, mais en tout cas, ça a été plus propice à la performance pour cette année.
Ok. Est-ce que tu saurais dire mentalement et psychologiquement où est-ce qu'il a eu lieu le déclic? Ou est-ce que, je sais pas, t'as mis en place une habitude? Est-ce que y a une croyance limitante que t'as fait sauter et qu'on a débloqué plein d'autres? Est-ce que c'est tout simplement le fait d'avoir déménagé qui, tu sais, quand tu modifies ton environnement, tu modifies quand même beaucoup, beaucoup de choses implicitement, tu vois? Avec le recul, c'est quoi peut-être le petit hint le premier domino qui a renversé tous les autres?
Alors le premier, je vais le prendre chronologiquement, même si je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais le premier, ça a été de me rendre compte, alors du coup c'est direct une performance, mais de me rendre compte sur les premiers cross que j'ai fait que j'étais en forme parce que je faisais des choses mieux que ce que j'avais fait les années précédentes.
D'accord.
Donc ça, je pense, ce premier domino, il a enclenché un gain de confiance en soi pour la suite. Et après du coup, je pense que si j'avais actionné que ce domino-là, ça aurait pas tout fonctionné derrière. Parce que, ok, j'avais plus de confiance en moi, mais je pense que, par exemple, un deuxième domino, ça a été la nutrition. Enfin, j'ai aussi quand même bien changé ma manière de m'alimenter. Je mangeais plus de féculents, en fait, tout bêtement. Avant, j'en étais encore sur le modèle manger de la salade, et là, vraiment. Mais là j'en venais, en fait c'est en changeant de vie et en côtoyant d'autres personnes et en mangeant avec ces autres personnes qui mangeaient des féculents, du coup tu manges comme eux et au final j'avais plus d'énergie. Donc le fait d'avoir plus d'énergie, derrière je pouvais mieux m'entraîner et mieux encaisser les entraînements, et je pense que j'ai pris plus de force musculaire aussi, peut-être plus d'endurance, enfin je sais pas comment dire, de résistance. Et en tout cas ça, je pense, ça a été un deuxième domino qui a été super important. Et donc le premier, je dirais, ça m'a permis de lever les barrières psychologiques un petit peu, en mode si en fait t'es capable de faire des choses bien, et voilà, juste pars à fond et puis tu verras ce que ça donne. Et en fait finalement le corps a tenu parce que le mental était là et était un mental prêt à la bagarre, on va dire. Et puis voilà, le fait aussi quand même de changer des choses sur l'alimentation, sur le corps, je sens que, alors j'ai, par exemple, j'ai pris du poids, mais En même temps, j'ai re-eu mes règles de manière naturelle, chose qui m'était pas arrivée depuis plus de 10 ans. Donc là, je me dis, bon, c'est top. Ça veut dire que ça y est, mon corps accepte enfin de refonctionner normalement. Donc, il me fait confiance. Je peux à la fois m'entraîner et à la fois, je serai en bonne santé, du moins. Voilà,
un bon cycle hormonal.
Bon cycle hormonal, ce qui est quand même important. Et je m'y attendais pas du tout à ça. Hein. Donc, je pense aussi, c'est une fois de plus, les hormones, c'est aussi bien lié au mental, au psychologique. Donc, voilà, il y a toutes ces choses. Ça a été au final un cercle vertueux, je pense, qui m'a mené vers la performance, on va dire.
Ok. Ta croyance avant, c'était qu'il fallait pas manger de féculents, du coup.
C'était qu'il fallait. Alors, ouais, non, j'avais rien contre les féculents, mais le soir, ouais, par exemple, typiquement, le soir, fallait manger léger, donc fallait manger la salade. Je sais pas, c'était. Alors que maintenant, c'est dans ma nouvelle croyance, c'est plus faut manger des féculents matin, midi et soir. Après, j'ai vu nutritionniste, tout ça, qui m'en ont parlé, diététicienne. Mais ouais, non, initialement, j'étais plus, voilà, faut manger des légumes parce qu'il faut pas prendre de poids, parce que des choses comme ça. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'ai pris du poids et pour autant, je suis pas moins performante. J'arrive toujours à monter les bosses, tout ça. Donc non, ouais, c'est pas facile. Je sais que dans nos sports, le rapport poids-puissance, il est hyper important.
Ouais, bien sûr.
Et on se prend la tête dessus. Et je te dirais pas que je me prends plus la tête, hein, parce que je suis quand même toujours sensible à ce qui s'affiche sur la balance.
Bien sûr.
Mais et ben voilà, ça peut, tous ces éléments-là, ça permet de se conforter, de se réconforter, de se conforter dans l'idée que on est sur la bonne voie, quoi.
Ouais.
Qu'on fait pas de bêtises et que peut-être dans 10 ans, je pourrais encore courir. ça serait
tout ce que
top.
Je te souhaite. Il faut, bien sûr. Enfin, il faut. On va arrêter avec les injonctions, mais je te le souhaite vraiment. Depuis quel âge tu surveillais ton poids?
Et ben ça a commencé bien trop tôt. Quand je faisais du kayak déjà, donc je me souviens en première, j'ai voulu m'affûter. Donc je suis passée de 56 à 48 kilos, donc ça a été long, hein, ce processus d'amaigrissement au final. Mais je sais pas, dans ma tête, m'affûter, c'était perdre de la masse grasse et bien sûr perdre du poids. Et puis dès que j'ai vu les kilos descendre sur la balance, c'est vraiment une spirale. Hein. Tu vois les kilos descendre au fur et à mesure et tu te satisfais là-dedans, tu t'auto-satisfais là-dedans, tu te convaincs que ce que tu fais c'est bien, qu'il faut pas manger de gras, pas manger, enfin du coup tu réduis tellement ton panel d'aliments.
Ouais.
Et bon, c'est là qu'arrive quand même pas mal de problèmes derrière. J'ai eu des œdèmes osseux, des choses comme ça, parce que j'étais plus imprégnée hormonalement, et puis je mangeais pas ce qu'il fallait, donc les os ils étaient fragiles.
Okay.
Voilà, c'est pas évident à s'en sortir.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est des croyances dont on se persuade. Et derrière, c'est super compliqué de revoir un peu les choses différemment.
Ouais, bien sûr.
J'en étais à un point, où manger un pain au chocolat, c'était
culpabilisant.
Je voulais même pas le manger. Okay. Je m'étais convaincue que de toute façon ça me servait à rien et que c'était pas bon et du coup il y avait plein d'aliments comme ça que niette.
Est-ce que dans tes souvenirs et dans toutes les rencontres que t'as faites, tu dirais qu'il y a beaucoup d'athlètes, hommes et femmes, tu vois, qui avaient les mêmes croyances que toi?
Oui. Ouais. Oui, oui, on est nombreux comme ça parce que je pense que déjà, rien que le fait de faire du sport à haut niveau ou d'avoir cette démarche-là, on essaye d'optimiser. En essayant d'optimiser, je sais pas, je pense que tout le monde s'est dit, un peu comme ma démarche, en fait, elle est classique. Tu te dis, je veux m'affûter, et puis derrière, tu te restreins. Et en fait, au final, quand t'es dans la restriction comme ça, vraiment, j'éprouvais une sorte de plaisir à ça parce que j'étais dans le contrôle permanent de mon alimentation, comme si t'avais besoin de contrôler quelque chose dans ta vie, contrôler ton monde, et ça, je voulais avoir l'emprise dessus. Et c'est là-dedans que tu te rends compte que tu t'enfermes, mais c'était aussi une source de, vraiment, de plaisir pour moi, c'est fou à dire, mais, si on voit faire des petites réserves de nourriture, des choses comme ça, ça montre, Mais je le fais encore, hein, mais ça montre une certaine anxiété par rapport à ce qu'on va te proposer à manger. Et du coup, tu veux quand même avoir bah, toujours ce contrôle là-dessus. Donc voilà, tu fais des petites réserves, tu dis, oulala, s'il me manque ça, ça va pas aller. Enfin, c'est des petites formes d'addiction aussi, donc faut faire attention, ouais.
Mais écoute, merci beaucoup d'en parler et bravo, tu vois, d'oser un peu libérer la parole dessus. Et écoute, figure-toi que là, moi, enfin, ça m'intéresse de plus en plus. Comme je te l'ai dit, moi aussi, j'ai des petits soucis avec la bouffe. et en fait, lors de, je pense, les 6 derniers mois, j'ai commencé à pas mal en parler aux athlètes. Il y a des interviews qui vont sortir plusieurs interviews qui vont sortir sur le sujet. Et je me rends compte à quel point, on pourrait mettre ça dans les troubles du comportement alimentaire, dans la grande famille. Dire à quel point ça peut être fréquent chez les athlètes. Oui. Et j'embrasse d'ailleurs Shirin qui est championne d'Europe de judo, qui est dans la catégorie la plus fine, tu vois.
Ah oulala, ça se
donne. Qui est toute petite. C'est une catégorie, désolé Shirin si je dis une bêtise, mais je crois que c'est moins de 45 kilos. Okay. Donc, c'est vraiment poids léger.
C'est restrictif, ouais.
Et on a passé une heure à parler de nourriture et de à quel point en fait c'était obligé. Enfin, c'est une obsession intégrée dans son sport, quoi. Donc merci beaucoup de libérer la parole pour ça, parce que je pense que on enferme aussi beaucoup d'enfants dedans, un peu trop jeunes, et les parents sont pas toujours éduqués, tu vois, à l'observer, à répondre. Il y a aussi un peu les médecins un peu de famille qui parfois peuvent être un peu paternalistes ou un peu, tu vois, faussement rassurants, plutôt que d'essayer de mener des études approfondies, quoi. Donc je pense qu'il faut libérer la parole par rapport à ça, tu vois.
Bah c'est clair que c'est super compliqué à identifier et à gérer. Je pense à mes parents, quand ça m'est arrivé, par exemple, je voulais pas qu'ils cuisinent pour moi, parce qu'ils cuisinaient avec du beurre, machin et tout. Donc, je faisais tout à ma sauce, je faisais moi-même mes trucs. Et
à ma sauce, mais sans sauce.
Ouais, c'est ça. Mais encore aujourd'hui, j'ai encore des traces de ça. Quand je rentre à la maison, c'est, tu peux faire sans rien et puis j'assaisonnerai moi. J'ai encore, c'est fou, hein, mais cette, alors que si c'est des copains qui le font, je m'en fous. Mais je sais pas, c'est mes parents, je veux encore avoir le contrôle. C'est incroyable. Et ouais, je me souviens d'une fois où j'avais rendez-vous chez le médecin et, c'était le rendez-vous où j'étais censée avoir pris du poids. Et avant d'arriver, j'avais bu de l'eau, parce que je savais que j'avais pas pris de poids, donc j'avais bu au moins 1 litre d'eau, et du coup, j'avais pris mon poids sur la balance, et c'était n'importe quoi. Enfin, après, j'étais ressortie, j'avais pissé toute l'après-midi. Et voilà, je repense à ça, parce que ma mère m'accompagnait, et en y repensant, je me dis, mais c'est la pauvre, ça devait être compliqué quand même.
Ouais, bien sûr, mais c'est aussi pour toi, tu vois, la première concernée. Mais en tout cas, bravo pour le chemin que tu parcours, et pour, toutes les avancées que tu fais par rapport à ça, et je pense si ça se ressent au niveau des résultats, c'est vraiment super.
Ouais.
Tu peux que te féliciter, quoi. Et ça montre aussi, d'ailleurs, si vous êtes parents et que vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur faire écouter ce passage. Et non, mais ça montre que tu vois la libération par rapport à cette obsession qui peut être la nourriture et ou le poids, elle est libératrice, tu vois. Vas-y, libératrice.
Ouais.
et ça permet, en tout cas, toi, ça t'a permis de vraiment prendre ton envol, quoi.
Oui, et je pense que, pour moi, le fond du problème, c'était l'acceptation de soi, tout simplement. Et d'autant plus quand t'arrives dans... Alors moi, à l'époque, je faisais du kayak. Au final, j'étais vraiment dans des croyances. Je pense qu'il y avait pas vraiment de... Je pense pas que j'étais grosse en plus à ce moment-là, donc il y avait pas vraiment de réalité. Par contre, là, dans le monde de la course à pied, quand j'ai eu ma première sélection, donc en équipe de France de course en montagne en 2018... Pourtant j'étais affûtée, j'étais sèche à ce moment-là. Et je me sentais grosse, mais vraiment au milieu des filles, parce que je pense que j'ai une morphologie un peu trapue, un peu plus trapue, voilà, j'ai plus je suis plus en chair et en os que d'autres, et du coup tu très rapidement tu as du mal à te sentir aussi à ta place, ou tu complexes, c'est humain, de toute façon on se compare, on faudrait pas se comparer, j'ai bien écouté les conseils de la dépolarisation tout ça, mais n'empêche que voilà, par nature on se compare, et quand on tombe dans la comparaison, on peut perdre confiance en soi, et c'est ce qui m'est arrivé aussi, ouais.
Ah ouais, bien sûr. C'est marrant parce que j'en parlais avec un copain de bureau, tu vois, et en fait il y a une énorme affiche à côté de notre bureau et on la voit par la fenêtre. Et c'est je sais plus quel acteur pour qui est torse nu, hyper bien, tu vois, enfin qui a un torse voilà, très 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 sculpté, très musclé. Et mon ami, tu vois, qui a arrêté le sport là depuis 2 ans, c'est douloureux pour lui d'avoir arrêté le sport. C'est pas un choix. Et il me dit, mais en fait, de voir ça tous les jours, ça me, ouais, ça lui fait, ça l'atteint quoi, ouais, psychologiquement. Et je lui dis, bah t'imagines, t'es une femme et tous les jours à l'arrêt de bus, tu vois des maillots de bain, des bikinis et tout. Nous les hommes, c'est quand même moindre, tu vois, par rapport au corps. Donc, en tout cas, nous, enfin. En tout cas, tous les deux en tant que garçons, ça nous a fait prendre ça nous a fait avoir cette prise de conscience de se dire que effectivement pour les filles et les femmes, c'est plus compliqué quoi, ce rapport au port, ouais, qui est rappelé très souvent quoi par la société, ouais, un peu de consommation quoi, ouais, des stéréotypes. Ouais, petit coup de gueule passé. Petit coup de gueule passé. Est-ce que si on devait terminer là-dessus, tu vois, qu'est-ce que t'aurais essayer de faire avec le recul? Est-ce qu'il y a un moment où tu aurais pu te dire quelque chose ou faire quelque chose qui aurait peut-être été plus efficace? J'entends par là que c'est aussi souvent dur pour l'entourage, tu vois, de justement, on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas trop comment réagir, les médecins sont pas vraiment formés pour ça, les parents osent pas mettre des mots des fois sur ça. Et en tant que parent, les parents osent peu demander qu'est-ce que tu attends de moi, ou l'entourage, c'est une question qui est dure à poser, qu'est-ce que tu attends de moi. Et toi, qu'est-ce que t'aurais aimé comment est-ce qu'on aurait pu t'aider?
En fait, c'est bête à dire, mais je pense que on n'aurait pas trop pu m'aider parce que là, c'est un engrenage et du coup, ça vient petit à petit, ça s'instaure petit à petit parce qu'au début, comme je l'ai dit, tu commences par juste faire un peu attention, vouloir changer les choses. Au début, vraiment, c'était de la curiosité. D'ailleurs, je m'en souviens, j'en avais parlé à mon coach de kayak, alors qui lui était diabétique de type 2, donc il avait interdiction du sucre, et il m'avait parlé de l'adage manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir, d'où la salade le soir, tu vois. Okay. Et du coup, je m'étais mise à suivre cet adage vraiment au pied de la lettre. Donc le matin, je mangeais énormément, même des flageolets, enfin je mangeais des choses, voilà, sans sucre, hein, parce que lui aussi il mangeait pas de sucre, donc voilà, je m'étais dit je vais suivre un peu son programme.
Okay.
Et sauf que voilà, ça, la méthode a fonctionné, on va dire, j'ai perdu petit à petit du poids, mais derrière, voilà, c'est l'état d'esprit qui change petit à petit. Alors c'est compliqué de se dire là à ce moment-là, stop, fallait agir. Enfin, je vois pas comment j'aurais pu.
Ok.
Ça aurait été compliqué.
Et alors, je te pose la question différemment, parce qu'effectivement, ma question était mal posée. C'est si demain, tu te rends compte que quelqu'un dans ton entourage, tu vois, une amie ou la petite sœur d'une copine, tu vois, où tu te rends compte que elle est dans le même engrenage que toi.
Ouais.
Qu'est-ce que tu essaierais peut-être subtilement de lui dire ou de faire pour elle?
Déjà, je pense relater mon expérience parce que, en fait, au début, du coup, en voulant s'affûter, le gros problème, notamment en kayak où tu as besoin de prendre de la masse musculaire, de faire de la muscu et tout, c'est qu'à la fin, mon corps, il prenait plus de masse musculaire. J'avais beau faire de la musculation, je ne prenais pas de muscles.
Ouais.
Donc, j'étais pas puissante comme les autres parce que j'étais en déficit énergétique. Et voilà, relater cette expérience parce que si la personne, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est de performer dans son sport et que ce qu'elle est en train de faire, ça va contre la performance, peut-être que voilà, ça dépend sa manière de réfléchir, mais en lui démontrant un petit peu par A plus B que ce qu'elle est en train de faire, elle court droit à la catastrophe, ça peut peut-être agir. Mmh. Et puis après, sinon, ça vient souvent aussi d'un mal-être profond, enfin je veux dire plus profond que ça, et donc peut-être tout simplement lui faire rencontrer des gens, c'est bête, mais voilà, la sociabiliser au maximum, de sorte à ce qu'elle oublie un peu, parce qu'en fait quand c'est une manière aussi de se renfermer sur soi, tout contrôler, son environnement machin tout, et de se couper un peu du reste du monde,
hein,
parce que du coup en plus quand tu suis ton petit programme drastique, t'as plus trop envie de voir les t'as pas trop envie de faire la fête, de machin, de trucs, parce que tu sais que là, ah, tu vas devoir manger du gâteau au chocolat. Enfin, en tout cas, tu vas être tenté de le faire, parce qu'en plus, ton corps, il en a envie. Hein. Enfin, il y a des fois, j'avais quand même très, enfin, des petites crises, on va dire, de, oh, tu manges du gâteau, des choses comme ça. Donc, voilà, avant de rentrer là-dedans, si possible, continuer de voir du monde, enfin, tout simplement se sentir, vraiment se sentir bien dans sa peau, c'est l'essentiel. Donc, tout faire pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Okay. Et puis, bah, consulter, sinon, un psychologue ou ça aide, hein.
Ben voilà, on restera sur ce petit ouais. conseil. Et il n'y a pas de mal à aller voir un psy ou une psy, bien au contraire.
Pas, ouais.
C'est un signe de, comment dire, j'allais dire, d'être sain, d'un esprit sain.
Oui.
Et donc,
oui, je pense, bah pareil, moi j'avais vraiment pas envie d'aller voir de psychologue parce que j'avais une très mauvaise expérience avec la psychologue quand je faisais du kayak à Toulouse.
Okay.
Donc je voulais plus en entendre parler.
Ouais.
Vraiment, pour moi, c'était un échec d'aller voir un psychologue. Ça voulait dire que j'avais un problème et je voulais pas du tout y aller parce que aussi je m'étais sentie très très mal dans les consultations avec cette psy. Et en fait là j'ai pu en revoir une, bon là j'ai vu cette année et même l'année dernière juste une fois, mais j'ai envie d'y retourner, hein. C'est juste
ouais.
bon, c'est vrai que ça coûte non, mais il faudrait que j'y retourne d'ailleurs, et c'est, en fait ça fait vraiment du bien.
Ouais.
Et ça pointe des choses, et non je conseille d'aller voir, ouais, même okay. si on croit qu'on a pas, enfin en fait c'est pas le fait d'avoir un problème, c'est juste ça permet aussi de parler, de je sais pas, c'est bien.
Tu écris aussi?
Et alors ouais, bah du coup j'essaye là, c'est une de mes résolutions 2024, d'écrire un petit peu, de mettre des mots sur tout ce qui peut me passer par la tête, parce que je me rends compte que j'ai trop tendance à porter un jugement sur ce que je fais ou que je ne fais pas, ou que voilà, je juge tout ce que je fais d'une manière assez dure. Je suis dure avec moi-même, je pense. Et du coup le fait d'écrire, hop, et puis de relire après ce que t'as écrit, tu
ouais.
dis, ah c'est pas bête, ouais c'est comme ça, c'est bien vu, machin. Et en fait, j'adore poser un peu sur le papier ce qui me passe par la tête. Faut que je prenne le temps. Donc tu vois là, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Bessan pour 2-3 jours de ski, toute seule. Et ben c'était génial parce que j'ai pu ben me poser, parce que sinon je prends pas le temps de le faire, et relater un peu, bah voilà, ce qui s'est passé en 2023, juste mettre des mots. Et,
ouais.
et des fois essayer de, en les mettant, tu vois, au fur et à mesure je me dis, ah oui ok, j'écris ça, et en fait au fur et à mesure, ah mais oui, c'est cet état d'esprit qu'il faut que j'ai, parce que par exemple je me disais comment aborder le titre, enfin, de championne du monde, là je me disais
ouais.
y a, et donc je commence à écrire, il y a deux manières d'aborder, ou enfin de vivre avec ce titre machin. Et la première manière, sous-entendu, que je ne fais pas, ce serait de me dire que c'est un accomplissement, que c'est pas une fin en soi, mais voilà, c'est un moyen qui va me servir de me dire, t'as déjà réalisé ça, c'est super, machin. Et en écrivant ça, je me dis, mais pourquoi je fais pas ça? En fait, oui, c'est super d'avoir cette vision-là. Et la deuxième vision, c'était plus de se dire, ah ben, c'est un moyen de plus de te mettre la pression, parce que du coup, t'es attendu, t'as un statut, machin et tout. Et du coup, en écrivant ces deux manières de voir le même événement, enfin, le titre, je me suis dit, ok, là, maintenant, faut que je me persuade. Et en plus, t'as deux options. T'en as une qui te donne envie, l'autre qui te donne pas envie. Bah voilà, maintenant, persuade-toi que ce titre-là, c'est que du positif, et que maintenant, ça va rien fondamentalement changer. Juste, peut-être te libérer en te disant, bah voilà, j'ai déjà accompli ça dans ma vie, c'est top. Ouais. Je peux m'en servir que pour me relâcher un peu la pression, quoi.
C'est trop beau, tu viens de montrer le pouvoir de l'écriture.
Ouais.
le fait de cristalliser des pensées,
ouais.
et de se dire que t'as réalisé par toi-même que t'avais une pensée qui était un peu irrationnelle, ou
ouais.
qui correspondait pas avec ce que tu voulais être, et juste en la mettant sur papier, et,
ouais.
et ça t'a permis de faire un peu ce switch psychologique, quoi. Bravo.
Carrément.
Et t'as un modèle ou une façon d'écrire?
Non, bah là j'étais partie d'une question, genre quels ont été quels ont été les facteurs de ta performance cette année, quelque chose comme ça.
Okay.
Mais en fait je suis partie très loin, parce que je suis repartie de quand je faisais du kayak, que la rivière elle me faisait peur, que voilà, enfin j'ai un peu déconstruit plein de trucs.
Ouais.
J'en suis venue à me dire bah que le trail ça me correspondait vraiment bien. Et puis derrière, ce qui a pu enclencher aussi ces performances, l'état d'esprit, machin.
Ok, voilà. Ok. Bah écoute, si tu veux, je peux t'en recommander un. Si jamais, alors, c'est plus court. Enfin, tu vas comprendre. C'est, ça s'appelle le modèle LMFAO, comme le groupe de musique. Et c'est facile à retenir. L, c'est pour écriture libre, liberté. Donc t'écris ce que tu veux, vraiment ce qui te passe par la tête. Ensuite, il y a M, c'est pour merci. Donc tu peux dire 3 fois merci. Donc merci à Clémentine de m'avoir accueilli sur sa terrasse pour passer un super bon moment. Merci au voleur de mon scooter pour m'avoir fait rendre compte qu'il faut que je mette pour m'avoir appris que je devais ranger mon scooter, tu vois, par exemple. Donc ça c'est le merci. Ensuite le F c'est le fierté. 3 petites fiertés que t'as eues la veille, tu vois. Ça peut être des petits accomplissements. Le A, c'est les apprentissages, et ça je trouve que c'est très bien parce que ça te permet de transformer des petits échecs de la veille en apprentissage. Et le dernier, c'est objectif. Objectif du jour. Et à chaque fois, moi, j'essaie de faire 3 points. Alors pour le L, maintenant, j'ai plus tendance à le mettre en tout dernier parce que j'écris beaucoup. Mais du coup, ça fait 3 points. Je mets merci, tu vois. Donc c'est juste 3 phrases, trop simple, et ainsi de suite pour les autres.
Donc tous les jours.
Tous les jours, et ça prend 10 minutes, et c'est trop bien. Enfin, franchement, ça m'a changé la vie. Parce que effectivement, tu fais cet effort de te dire ok, de quoi je suis fier. Qu'est-ce que j'ai appris? Et ok, c'est vraiment quoi les 3 choses sur lesquelles je me concentre aujourd'hui? Et ça permet de mettre des intentions. Donc, ça cristallise beaucoup.
Oui,
donc,
c'est ça.
Je te le recommande.
J'essaierai.
Si t'aimes bien écrire, tu vois, ça prend 5-10 minutes par jour. Et c'est, moi, ça a été un de mes ingrédients du bonheur cette année.
Trop bien.
Et si je reprends un petit peu le fil, t'avais, il y a une phrase qui m'a marqué parce que tu t'es dit ça aurait pu me faire de la pression et j'aurais pu être attendu. T'essayes de te détacher de cette pensée au maximum.
Parce que déjà que la compétition, je m'en mets de la pression, hein, forcément j'ai envie de faire le mieux possible, et c'est toujours l'arène un peu du jugement. Alors si en plus tu te dis que les doigts sont pointés sur toi parce que t'as le statut et que tout le monde a les crocs comme ça, j'ai une image dans la tête où tout le monde veut battre Clémentine. J'aime pas cette image là donc faut que j'essaye m'en détacher en me disant juste surtout que comme le sport, c'est ça qui est beau dans le sport, c'est que c'est des courses d'un jour, que tout peut arriver, et si c'est écrit d'avance sur le papier qui allait gagner machin, c'est même plus de la compétition, c'est plus juste, ça marche pas. Donc en fait, c'est vraiment irrationnel d'être amené à croire que de par ton statut, il y a pas de statut en fait. Justement, sur la ligne de départ, il y a pas de statut. On est tous égaux. On est tous sur la ligne de départ et aujourd'hui, on va tous prendre faire la même course.
C'est ça. Et c'est pas parce que effectivement, il y a 3 semaines, 3 mois, 3 ans, gagné une super course que aujourd'hui, t'es en forme, quoi.
Et en plus, c'est ça qui est, moi, ça m'a permis cette année. Je pense que sur la ligne de départ, on était tous égaux, machin et tout. Peut-être que, la petite Clémentine, elle avait jamais fait de choses comme ça. Hop, là, ce jour-là, elle a saisi une opportunité. Enfin, du coup, c'était peut-être pas moi, j'étais plus l'outsider, entre guillemets. Et donc, faut vraiment relativiser sur cette ligne en se disant, allez, et puis, qu'est-ce qu'on risque? Enfin, je veux dire, au pire, tu risques que ça se passe pas bien. Et donc, c'est ce que j'ai écrit l'autre fois. Même si ça se passe pas bien, les gens seront là pour toi. Et au final, une contre-performance, ça passe entre guillemets inaperçu dans le sens où, si tu gagnes, les gens sont contents pour toi. Si tu gagnes pas, les gens ils sont avec toi. Enfin, je veux dire, ils vont pas te. Et ceux qui te critiqueront, qui porteront des jugements, c'est pas des compétiteurs, c'est pas des sportifs dans l'âme. Enfin, c'est trop facile de porter un jugement comme ça. Il n'y a pas de raison, en fait. C'est vraiment les croyances que j'ai parfois, je me rends compte en réfléchissant qu'elles sont pas très bien fondées, elles sont pas rationnelles.
C'est vrai qu'on crée des peurs sur les attentes de notre entourage, sur certains résultats et finalement, c'est beaucoup de projection.
C'est ça.
Beaucoup d'imagination.
Exactement. De pas se projeter dans ce qui va arriver, vivre le moment présent et je crois que c'est ce que j'ai pu faire cette année et c'est un des ingrédients de la recette aussi. Ouais.
Ok. Bon, on en a parlé avec Pierre David. Tiens, je t'enverrai l'épisode où on a parlé effectivement
avec
de la projection avec avec les parents et on parlait du effectivement du stress d'avant compétition.
Ouais.
Effectivement, il avait super bien déconstruit ça, le fait que c'était beaucoup de projections de notre imaginaire peut avoir tendance des fois à imaginer des situations extra, enfin et à les extrapoler comparé à la réalité quoi.
Ouais, et générer des pensées négatives et ce qui va pas dans le sens qu'on veut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pour le résultat et pour sa course, quoi. Enfin.
Ouais. Mais ça me fait un tout petit peu réagir parce que forcément, j'avais écouté quelques interviews de toi et là, tu viens de dire, je me considérais comme une outsider et moi j'ai trouvé que tu avais gagné toutes tes courses en leader, tu vois, j'étais à Chamonix pour la MCC aussi et tu pars très vite, tu tentes quoi, tu prends des risques, moi je trouve que c'est cool de suivre tes courses parce que souvent en plus sur les distances un peu plus longues, tu vois, c'est la prise de risque, elle est moins évidente, tu vois. C'est un peu, ok, tout le monde démarre et puis ça craque ou ça passe.
Ouais.
Et là, sur des distances plus courtes, vraiment, on voit que le départ est hyper important. Il y a des stratégies, enfin, tu vois. Et toi, tu veux dire à fond, quoi. Donc, c'est hyper plaisant, quoi.
Ouais. Bah, c'est vrai que ce qui a peut-être fait ce déclic, c'est justement la configuration des championnats de France 2023, là, à Millau. Mmh. Parce que le départ, il était très rapide parce que il était en descente et rapidement, au bout de 1 km, je crois, un peu plus, il se réduisait, le parcours se réduisait sur un single qui faisait que derrière, t'es les uns derrière les autres et c'est un peu, saoulant quand tu peux pas avoir ton rythme. Et moi, ce départ, il m'angoissait vraiment beaucoup parce que j'avais peur de tomber, de me faire bousculer, ça allait être rapide. Et je me suis dit, allez, essaye de me faire, dans l'entonnoir, là, de me faire coincer au moment où ça se rétrécissait. Donc, je me suis dit, allez, pars à fond.
T'as l'habitude avec les crosses en plus.
Ouais, j'avais l'habitude là en plus, ouais. Donc je me suis dit, pars vite et puis tu verras bien, mais surtout te fais pas enfermer. J'avais vécu ça au championnat du monde en 2019, au Portugal, où j'étais pas partie assez vite, je sais pas, mais en tout cas au bout de, je sais pas, 2 km, je me retrouvais coincée. C'est hyper frustrant. T'as envie, t'as de l'énergie et tu te retrouves coincée sur une passerelle où tout le monde marche. Et tu te dis, punaise, mais ceux qui sont devant, ils sont en train de me mettre facilement du temps pour rien. Donc voilà, j'étais partie vite et ça m'a permis de pas me faire coincer dans l'entonnoir. J'étais trop contente. Et derrière, alors c'est vrai que j'étais partie peut-être un peu vite, mais finalement, ça a tenu. Je me dis, réessaye de faire ça. A priori, ça tient. Et puis plus ça va, plus tu commences à te connaître. Et si à un moment, tu te gères, quoi. Si à un moment, tu vois que t'es partie un peu vite, tu ralentis un peu. Alors c'est facile sur le papier, mais voilà, je pense que cette année, j'ai essayé de beaucoup partir vite. Alors, ça n'a pas toujours marché. Hein. Justement, la MCC, j'étais partie quand même vite. Mais dans la montée, je me fais reprendre. Heureusement, derrière, il y a une descente. Et là, c'est bon, j'ai pu faire le trou. Mais pareil, la dernière course, là, c'était la Sky Race de Limone. J'ai quand même essayé de partir vite, mais là j'étais en...
Ça a bloqué.
Ah, ça a bloqué. Trop, trop dur. Et du coup... J'ai quand même fait la majeure partie de la course à l'arrière et c'est aussi plaisant de faire une course où tu remontes, mais là par contre tu passes par tous les états émotionnels parce que je crois que j'étais à la 10e place à un moment et puis finalement j'arrive à remonter, je finis 4e, mais je sais pas comment je finis et je m'attendais pas à remonter les filles au fur et à mesure.
Ok. Ouais.
T'as des moments où tu te dis je suis 10e, j'accroche le top 10 et puis voilà, vraiment l'état d'esprit dans lequel tu te mets, c'est pas agréable et au final c'est de continuer et puis à un moment là hop, t'en vois une, tu dis ah mais en fait ça va, je suis pas si loin. Et puis petit à petit t'arrives à raccrocher les wagons, quoi.
Est-ce que c'est pas ces courses finalement qui sont les plus enrichissante ou en, est-ce que c'est pas ces courses qui apprennent le plus finalement ou tu sais justement tu passes par des états négatifs un peu de pensée où t'as l'impression que ça bloque, c'est pas un bon jour et puis il y a pas eu de chance au départ et puis la météo et puis le petit déj de l'hôtel et puis finalement comme foutu pour foutu comme on dit bon, allez, la course fait son chemin et puis tu te montres à toi-même vraiment quelque chose de fort.
Ouais, c'est sûr que c'est plus sur les courses comme ça où t'en as bien chié que tu vas retirer vraiment des clés pour la suite. La course parfaite, au final, ouais, je sais pas si elle t'apporte grand-chose à part énormément de joie, de choses comme ça, mais je pense que quand t'as bien eu le temps de gamberger pendant ta course derrière tu même à l'arrivée tu vois je me dis mais c'est bête pourquoi j'ai eu ces pensées négatives en fait rien n'est perdu donc en fait vaut mieux transformer tout ça en pensées positives en se disant regarde là tu avances bien machin enfin en s'encourageant plutôt que de se blâmer intérieurement j'y arrive pas c'est pas j'ai envie d'arrêter c'est dur hein de surmonter ces pensées négatives et d'où l'intérêt de travailler ça au quotidien avec psychologue préparateur mental. Je pense que ça peut aider pour être vraiment se persuader avant la course et comme ça le jour J enclencher toutes ces pensées positives.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça te permet d'avoir des outils et puis aussi de vider son sac, tu vois, un autre moment que celui de la course.
Ouais, c'est ça.
Parce que généralement, c'est le jour où tout rejaillit, avec la fatigue, les hormones et tout, et le stress. Donc, t'as des phrases, toi en particulier, que tu te répètes ?
J'essaye de me dire que ça va aller, que c'est qu'un mauvais moment à passer, entre guillemets. Par exemple, moi, je souffre quand même pas mal dans les montées. Et des fois, ça paraît très, très long, les montées. Donc, tu essayes de te dire, en haut de la montée, ça va rebasculer en descente. Et là, enfin, tu vas te faire plus plaisir. Donc... c'est pas des phrases préconstruites toujours la même, mais juste de manière générale, c'est plus de se dire, un état d'esprit optimiste où tu te dis, allez, ça va aller, je vais m'en sortir. toutes les bonnes et mauvaises choses ont une fin, donc ça va aller.
Quand tu dis que tu souffres, c'est plus musculaire ou c'est plus le cœur?
Je pense que c'est cardio quand même.
Ah, c'est le cardio.
Plus ça va plus la course va être longue, plus ça va être musculaire.
Ouais.
Mais moi dans mes efforts actuellement, c'est plus le cardio où tu te dis je peux
t'as pas 180 pulses c'est là.
Ouais, ou même des fois c'est juste un ressenti, mais je pense que c'est l'ensemble avec le stress, la chaleur ou le froid ou voilà tous ces éléments qui font que là c'est un trop plein d'informations, peut-être le cœur qui est à fond, le froid, le chaud, un trop plein de choses à penser, les concurrents.
Ouais, OK. Tout ça. Et est-ce que cette année t'as connu le flow ? Est-ce qu'il y a eu une course où, avec le recul, tu te dis finalement, ce jour-là j'étais vraiment bien en fait. Et, je sais que souvent le flow, tu t'en rends compte un petit peu après. Enfin, de toutes les rencontres que j'ai fait avec des championnes et des champions, le jour J, tu calcules pas vraiment, et c'est les jours d'après où tu te dis waouh, ce jour-là j'étais tellement focus, tout allait bien, tout était lisse quoi.
Effectivement, je pense que pendant les championnats du monde, alors je saurais pas trop identifier le flow, mais si je devais identifier un moment dans la course où il y avait plus de questions, je me posais plus de questions. C'était limpide comme tu dis, et en fait mon seul objectif, j'étais focus sur rallier la ligne d'arrivée, c'est vraiment après avoir bien souffert dans la montée, où là c'était la descente jusqu'à l'arrivée, donc on était au 40e kilomètre, il devait rester 4 kilomètres à peine pour rallier la ligne d'arrivée. Là vraiment je pense que le moment de flow, ça a été quand j'ai arrêté de me poser des questions et que je me suis juste dit, allez, vas-y, fais-toi plaise. Et c'est vrai que je l'identifie comme ça, au moment où tu lâches prise un peu. Et en fait, c'est ton corps qui parle. Je m'en souviens même plus trop, tu vois. Enfin, souvent, on me dit, ouais, t'as fait une super descente. Alors, ouais, j'ai fait une bonne descente. Mais comme ça, quand j'essaye de me remémorer un peu ce moment, heureusement qu'il y a une petite vidéo, mais sinon, je m'en souviens pas spécialement, quoi.
Ok.
Mais, en tout cas, je veux dire, c'est pas ancré dans, dans mon corps. Je pourrais pas dire ouais les sensations que j'avais à ce moment-là, parce qu'en fait j'en avais pas vraiment. Enfin, parce que peut-être j'étais super bien, je sais pas.
Mais... ouais, c'est le flow.
Genre j'avais pas les douleurs musculaires que tu peux avoir en fin de course, tu vois, où là tu sens tes jambes lourdes et tout. Non, enfin en essayant de me rappeler comme ça, c'était limpide.
Ok. Comment est-ce que tu l'as fêté cette course? C'était une grande journée en plus.
Ouais, c'était une très grande journée. Ben non, j'étais super heureuse. Alors après, justement, ça me fait rebondir un peu sur le podcast que tu avais pu faire avec Nouria Newman.
Ouais.
Alors je sais pas si c'est là qu'elle en parle ou dans son reportage Wild Water, mais elle dit que elle a été vice-championne du monde de slalom en kayak et au final elle a pas tellement savouré ce titre, enfin ou du moins elle s'attendait à ce que ça lui apporte plus, plus de bonheur, plus de tout quoi. Et alors moi je m'attendais tellement pas déjà à gagner que forcément je l'ai vraiment savouré. Je peux pas dire que je l'ai pas savouré, j'étais super heureuse et tout, mais c'est vrai que bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en même temps, voilà, je veux dire, c'est super. Mais même si j'avais pas gagné ou quoi, ça reste, enfin, comment dire, ça savoure, mais en même temps, voilà, ça passe très vite.
Ouais.
Et au final, ça peut remettre un peu en question des choses dans notre sport où on se dit, bah voilà, on va passer par exemple toute sa carrière à la quête d'une médaille ou voilà d'un titre comme ça. Et au final, bah, une fois que tu l'as, est-ce que enfin, qu'est-ce que ça change? Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors voilà, maintenant c'est dans ma tête et je me dis c'est un accomplissement. J'ai fait ça. J'essaye de, voilà, d'où le fait de le noter sur du papier pour me le rappeler et m'en faire, voilà, plus une fierté, un accomplissement, quelque chose qui va me servir positivement plutôt que d'être dans le, je suis plus capable ou j'ai réalisé ça, mais c'était une autre moi. Enfin, je sais pas, plein de pensées comme ça. Donc, c'est des super moments qu'il faut savourer, mais il faut aussi savoir passer à autre chose pour se réinventer et pas tomber dans un amour du passé.
Et, qu'est-ce qui est plaisant depuis dans ta vie que tu n'avais pas avant? J'imagine que ça apporte quand même une certaine exposition, des opportunités, des rencontres, des... je sais pas, peut-être des petites faveurs, je sais pas, mais est-ce que tu saurais dire, ouais, c'est ce que ça t'a apporté comme petits éléments de bonheur quand même. Tu sais, tu parlais de Florent Manodou, c'est marrant parce qu'on n'avait pas parlé à l'antenne et j'étais à deux doigts de remettre le micro à ce moment-là et lui, il me disait hyper honnêtement, il me dit, ouais, moi j'aime bien voir les journalistes prendre le micro et tout un peu de temps en temps. Il me dit à petite dose, mais il me dit ça c'est un truc je vais pas m'en, enfin si je le perds ça c'est une des sources de motivation en fait à me réentraîner et tout.
Okay.
Et si je le perds je serais un peu triste, tu vois.
Okay.
Et je trouvais ça vachement courageux de sa part de l'admettre en fait, tu vois.
Du coup moi je pense pas être trop de ce caractère, enfin j'aime bien franchement ça me fait super plaisir de pouvoir enregistrer des podcasts, tout ça, je suis trop contente et même d'être sollicitée.
Ouais.
Et je prends quand même du plaisir, enfin je veux dire là je prends énormément de plaisir, mais par exemple je suis intervenue dans des classes et au début je me disais mais qu'est-ce que je vais leur raconter aux enfants, et en fait c'est très plaisant, ouais. Et puis tu, en fait on se rend pas compte, moi je trouve pas, enfin avoir, je me rends pas compte de ce que j'ai pu accomplir au final, parce que c'est dans les yeux des gens qu'on se rend compte de peut-être ce qu'on a accompli. Et donc ça permet de se rendre compte de ça, donc c'est super positif. À côté, comme autre, déjà ça m'a apporté un soutien plus important de mon sponsor, donc ça c'est super agréable pour vivre. Et puis voilà, ouais, toutes ces petites sollicitations, ces félicitations, enfin ça fait toujours plaisir. Donc ça je prends, hein. je suis super contente. Mais oui, bien sûr. Voilà, en termes de reconnaissance, c'est sûr que ça fait, ça fait toujours quelque chose, ouais.
Mais pareil, c'est marrant, j'en discutais avec Pierre David et on se disait à quel point il y avait quand même un peu ce paradoxe pour les athlètes où t'as une petite voix qui te dit « Mais ça va pas être éternel, profites-en. » Enfin, le là, c'est buffet à volonté. Il faut
ouais,
profiter. Et en même temps, ne jamais oublier que bah, que ça peut, voilà, que c'est éphémère et que le fondamental du bonheur, il doit pas résider là-dessus, quoi.
Mais justement, je pense que c'est là où ma pratique, elle est assez équilibrée, dans le sens où, bah, en fait, moi, ce qui me reste de plus cher, c'est tout simplement de pratiquer mon sport et de me faire plaisir au quotidien en allant courir dans des lieux fabuleux. Et ça, c'est toujours ce qui me motive le plus.
Okay.
Donc, qu'il y ait cette médiatisation, enfin cette attention ou pas, ça va pas changer au fait que je vais aller courir pour me faire plaisir déjà, et puis ensuite pour m'entraîner, et puis pour reperformer de nouveau. Mais voilà, qu'il y ait ça ou pas ça, la substantifique moelle du truc, c'est mon amour pour la course à pied et pour le trail.
Tu serais pas malheureux s'il y avait plus de dossard?
Je pense pas, honnêtement. Alors, je dis ça et j'ai toujours fait que du sport de compétition. Mais je sais que le jour où j'arrêterai la compétition, je continuerai le sport pour mon équilibre, parce que c'est un exutoire, parce que c'est fabuleux. Enfin, c'est une partie de moi, en fait.
Ouais.
Non, je pense que je pourrais... En fait, les dossards, ça me fait rire parce que ça me fait penser à un copain qui dit « Moi, je fais du sport de haut niveau pour pouvoir... m'entraîner au quotidien, pour pouvoir juste avoir le plaisir de vivre la vie d'un sportif de niveau, donc c'est-à-dire s'entraîner. S'il n'y avait pas de compète, il serait pas malheureux. Lui, ce qu'il aime là-dedans, c'est l'entraînement.
Tous les jours.
Voilà, il aime l'entraînement, il aime cette vie, mais derrière, compète ou pas, la compète, c'est ce qui va légitimer ton mode de vie aussi, d'une certaine manière. Du coup, je me dis, là, je suis plus légitime, on va dire, à ne faire que ça. Parce que j'ai eu des résultats qui font que je peux faire que ça. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça aussi. Depuis toujours, je me cherche un petit peu professionnellement. Et j'ai toujours un peu rêvé de vivre la vie de sportif de haut niveau. Parce que c'est génial, tu as toute ta journée. Tu peux aller gambader dans la montagne, machin. Alors, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'au final, on se rend compte que... que l'entraînement, c'est si tu l'envisages comme un travail, il y a une rigueur à laquelle il faut se tenir, et c'est pas toujours facile, mais quand même on est vraiment privilégié dans notre pratique, c'est clair.
C'est une interview de Serena Williams où il y a un journaliste qui lui demande avec tous ces titres, tout ce que vous avez accompli, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier et qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureuse. Elle dit c'est me lever à 6 heures pour aller taper des balles, en fait.
c'est génial.
Et je trouvais ça cette réponse tellement belle et tellement vraiment passionnée, en fait, finalement.
C'est ça.
Et dire c'est ça que j'ai choisi, quoi, c'est la vie dont j'ai envie. Donc
là, tu te rends compte que ta vie, tu l'as choisie, t'es acteur de celle-ci et t'es pas en train de subir quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse, machin. Donc au quotidien, ça faut vraiment se le rappeler, se dire bon, cette séance, ok, elle m'angoisse un peu, elle va être dure, machin. Attends, c'est quand même toi qui as voulu faire ça. Là, t'as cette séance à faire, ok, mais ouvre les yeux, regarde où tu es et tu verras, ça passera bien. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, je me le dis souvent et ça marche bien.
Et quel que soit le niveau, ça marche.
Ouais.
Tu l'as choisi et t'as voulu sortir aujourd'hui, t'as voulu te faire 10 fois 1000, donc...
Ouais.
T'assumes. Si va, tu vas prendre du plaisir.
Ouais.
Et puis moi j'aime bien me rappeler aussi toujours que peut-être qu'à l'instant T, je suis pas heureux, mais quand j'ai terminé ma séance, je le suis.
C'est beaucoup la course à pied à retardement. Le bonheur et la satisfaction arrivent après la séance, où c'est super dur sur le moment, mais une fois que tu l'as fait, t'es trop content.
Ouais, exactement. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles le sport est beaucoup recommandé aux personnes qui ont des troubles de l'attention ou d'hyperactivité, parce que un des mécanismes, tu vois, c'est que forcément le circuit un peu de récompense, il est un peu déréglé, et du coup le sport, c'est exactement ça, quoi. C'est t'arrives, tu sais que ça va être dur, et il faut te projeter dans 1 heure, dans 2 heures, et te dire ok, à ce moment là je serais bien, et même si je fais pas le résultat que j'ai voulu. Hormonalement, normalement,
on est
en train de planer, quoi.
On est aussi un peu drogué à ça. Moi, c'est pour ça que même s'il y avait pas de compète, machin, j'irais courir, parce que c'est l'endorphine, machin, tout ça. Ouais. T'as fait ton truc, t'es bien, et t'es aussi plus propice à bah, à faire plein de choses de ta journée en étant calme, posé, dans un bon state of mind, là. En étant bien, quoi.
Comment est-ce que tu as envie de progresser encore cette année?
Eh ben, il y a plein de challenges. Là, je suis contente parce que justement, l'idée, c'est OK, 2023, c'était incroyable et la recette, elle a fonctionné. Mais je pense qu'il faut pas reprendre les mêmes ingrédients. Il faut pas refaire la même recette parce que faut se réinventer, je pense. Je pense pas qu'elle va remarcher une seconde fois. Et d'ailleurs, elle est tellement singulière que, enfin, il s'est passé tellement de choses que c'est,
oui.
On va pas, j'ai même pas envie de refaire ça parce que ça ferait repasser par des états que j'ai pas envie. Donc, je vais tout reprendre à zéro, changer. Déjà, ce qui me motive, enfin, ce qui va changer pour cette année, c'est que ça va être super varié. Je vais commencer par les crosses, puis championnat de France de trail court. Et okay. Ensuite, le gros objectif sera les championnats d'Europe de trail qui ont lieu à Annecy.
Ouais.
Le 1er juin.
Et venez ça. Nombreux.
Ouais. Venez au bord des sentiers. Et ça, c'est super motivant parce que ça va être, donc, 65 km et 4000 mètres de dénive. Et c'est, une distance que je n'ai jamais couru en compétition auparavant et même jamais couru comme ça. Donc, il va falloir se préparer pour cette distance. Donc, c'est un hyper challengeant. Enfin, je vais devoir préparer quelque chose que j'ai jamais connu, comme un peu ben les mondiaux à Innsbruck, quand on m'avait dit « Mais t'es prête à préparer 44 km et 3000 mètres de dénivelé ?» Vu que moi, j'étais encore plus dans le format course en montagne, trail court, je disais « Ah, ouais, bah je relève le défi, tu vois. » Et bah là, c'est pareil, j'ai envie de relever ce défi-là, de préparer 65 km et 4000 mètres de dénivelé. Donc, okay. Rien qu'en mettant ça comme objectif, je sais que la recette, elle va être vraiment singulière et différente. Et il va falloir que je m'entraîne différemment aussi. Donc rien que ça, ça me fait super plaisir parce que je vais pas retomber dans quelque chose que j'ai pu, voilà, dans une certaine monotonie ou quoi.
Ouais.
Je me réinvente là-dessus. Ouais.
Voilà. T'as besoin de t'amuser en fait.
Ouais, j'ai besoin de m'amuser et de renouveau.
Ouais.
De voilà et tenter des choses. Bah je me dis c'est l'année où cette année je fais que ça, que m'entraîner. Donc faut que je tente des recettes.
Ouais.
Donc je sais pas, je me dis bah. Je suis hyper libre, donc je me dis bah j'ai envie de partir en stage une semaine à tel endroit, bah allez, feu, j'y vais, rien ne m'en empêche. Donc voilà, après c'est génial de se dire j'ai une page blanche et c'est un peu à moi de mettre les ingrédients que je veux pour ma saison. Et,
okay.
Et puis bah tout en essayant de me détacher au maximum de cette quête de résultats ou de performance, en se disant bah on me fait confiance là-dessus, à moi de remplir cette page et peu importe le résultat, enfin voilà, t'es là pour apprendre et t'en ressortiras forcément quelque chose. Donc je vais essayer de faire le LMFAO tous les jours, comme ça j'aurai cristallisé tout ça. Mais
tu veux pas obligé de le faire tous les jours, mais
non, mais régulièrement, c'est vrai, ça permet de même d'avoir une trame sur tout ce que t'as fait cette année.
Ouais.
Et derrière, tu relis et tu te dis ça, tu pointes des choses du doigt quoi.
Bah pour faire un bilan, c'est hyper pratique parce que ça va, du coup, ça va super vite.
Ouais.
Et bah même dans la méthode, si tu veux. Tu peux prendre, donc tu le fais dans un carnet et tu indexes les pages, tu vois, tu vas dire, ok,
ah oui.
Tu les numérotes, tu vois, rapidement.
Ouais.
Et puis, tu peux noter, tu vois, tous les 10, tu vois, par exemple, tous les 10 pages.
Ouais.
Et puis, en première de couverture, tu peux écrire, bah voilà, tel mois, le mois de juin, c'est page, enfin, le mois de janvier de 0 à 10 et
comme
etc.
Ça, voilà, t'as,
comme ça, après, tu peux retrouver très facilement.
Ouais.
Trop bien, trop bien. Et je suis fasciné par tu vois cette envie de reconstruire et de rebattre les cartes je pense qu'il y a c'est quoi, c'est la curiosité intellectuelle, c'est ta envie de réapprendre c'est ne pas tomber dans une certaine forme de monotonie et c'est ça que tu cherches.
Ouais, et c'est surtout en fait je me rends compte de la chance énorme que j'ai donc bah certainement grâce à ce titre de pouvoir vivre la vie dont j'ai toujours un petit peu rêvé, enfin du moins je m'en faisais des idées, donc bah voilà, maintenant on me l'offre sur un plateau d'argent et c'est à moi de faire ma recette, donc je me dis ça va pas arriver 36 fois dans ta vie, donc saisis-la et fais-le maintenant, vis-le comme tu as envie de le faire. Alors vu comme ça, c'est super bien, super inspirant, mais j'avoue qu'au quotidien des fois je me dis bah attends, qu'est-ce que je vais faire là, il y a quand même de la monotonie et j'essaye de la rompre parce que c'est pas quelque chose qui me fait du bien, je pense, quand tout est trop monotone. Donc je suis encore en train de me chercher pour avoir l'équilibre optimal, mais en tout cas ouais, c'est une certaine forme de curiosité où je me dis ben, quoi mettre en place, tester des choses, et t'as le temps pour ça et l'opportunité de le faire, et t'as toujours voulu le faire, donc fais-le.
Ouais.
C'est ça.
Ok. Ben, écoute, trop bien. C'est tout ce que je te souhaite, vraiment, de croquer cette grosse pomme à pleines dents et vraiment d'en profiter. Est-ce que tu t'es noté des points spécifiques, techniques, sur lesquels progresser? T'as mentionné que les montées, des fois, étaient un petit peu dures. Je sais que tu brilles très souvent en descente. En tout cas, quand on t'écoute sur tes récits de course, c'est souvent là que tu rattrapes beaucoup de gens. Peut-être que ça peut être sur d'autres points. Est-ce que t'as mis des intentions peut-être un peu particulières sur...
Ouais, alors dans tous les cas, la montée, enfin progresser en montée, ça va être un fil conducteur.
Ouais.
Bah vu que je vais devoir faire 65 km, ce sera explorer un petit peu ces longues distances dès l'entraînement.
C'est pour
en
les championnats d'Europe.
Ouais, ouais, pour les championnats d'Europe, donc dès
Et
l'entraînement.
C'est en cours.
Bah en fait, il y a pas de format.
De long,
voilà,
en fait.
Pour les Europes, c'est trail tout court.
Okay,
enfin, trail.
Okay. Du coup, ils ont fait un entre-deux, entre 40 et 80.
Ouais, je pense
que
c'est ça. Ouais, voilà, okay. Ils ont scindé le truc en deux. Mais je crois que les derniers championnats d'Europe, c'était sur 40 bornes. Donc, tu vois, cette année, ils ont arbitré, ils ont choisi 65 km. Donc, voilà, l'entraînement va falloir allonger la distance. Donc, ça tombe bien parce que vu que j'ai du temps, je vais pouvoir augmenter le volume d'entraînement. Donc, il y a plein de leviers à activer, mais voilà, je me pense toujours bien travailler dans les montées,
ouais.
Et puis allonger la distance, apprendre à bien allonger la distance. Ah oui, l'alimentation en course, même en dehors de la course, mais déjà en course, essayer d'avoir un plan nutritionnel et de s'y tenir. Enfin, parce que
ouais.
Moi, j'ai tendance, ma dernière course à Limone, là, en la Sky Race, j'ai fait une déshydratation. Enfin,
okay.
J'ai fini sur le brancard. Donc, voilà, ça va être aussi très important. Donc après, voilà, 65 km, c'est une autre intensité, mais j'ai besoin de travailler ça.
Ouais.
Voilà. Et puis, toujours prendre du plaisir. Enfin, je me le note parce que, voilà, le jour où l'entraînement commence à devenir une contrainte, une très grosse contrainte où t'es très fatigué et tout, faut réussir à se réinventer pour avoir envie d'y aller, quoi. Parce que si t'as 3-4 heures de vélo à faire et que t'as pas du tout envie d'y aller, c'est dommage.
Ouais, bien sûr.
Moi, c'est pas ce que j'ai voulu. Donc, forcément, il y a des moments où ça va être difficile, mais voilà. Essayer de bien tenir mon rythme, trouver mon rythme.
Ok. C'est quoi ton rêve le plus fou?
trouver un équilibre parfait.
Okay.
Genre une symbiose parfaite dans mon quotidien. Pour me dire un peu la plénitude, mais c'est quelque chose, c'est un peu comme la quête du bonheur. T'es en quête et au final tu t'en rends même pas compte quand t'es vraiment heureux. Donc non, mon rêve le plus fou, continuer à être heureuse et à faire des choses qui me font super plaisir dans mon sport et au quotidien. Mais oui. Je suis comme ça, j'ai pas de choses identifiées, gravir l'Everest ou je sais pas. Non, j'ai pas de projet comme ça.
Mais t'as raison. C'est à double tranchant vraiment d'avoir des objectifs hyper concrets.
Moi, c'est plus sur le long terme.
Ouais.
Parce que je pense aussi, j'ai vécu pendant une bonne période en mode un peu... éteinte ou du moins pas satisfaite. Du coup maintenant ma quête ça va être d'être tout le temps bien satisfaite et en accord avec moi-même. Enfin
ouais.
Déjà faut savoir ce que je veux, mais voilà, être en accord avec moi-même, ce que je veux, comment je veux et me sentir libre et me sentir bien, quoi, tout simplement. Pas avoir toujours ces pensées en mode t'es jugée dans ce que tu fais, dans ce que tu dégages, voilà, juste m'assumer. Et ça me fait penser à la dépolarisation inversée quand Pierre David parlait de tu peux être qui tu veux à n'importe quel moment de ta vie, donc
ouais.
Tu peux être quelqu'un d'heureux, de joyeux, quelqu'un de triste, tout ça, enfin ça fait beaucoup écho en moi parce que voilà, je trouve qu'on est toujours dans l'incarnation d'un personnage et j'ai envie que d'être vraiment sereine avec ce personnage, tout simple, enfin voilà, le manier le plus sereinement possible sans me dire attends mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi machin et tout, juste m'accepter moi-même, et c'est pas évident.
Bien sûr.
Voilà.
Et c'est le travail de toute une vie. Hein. Je crois qu'on ouais. on met tous du temps avant d'y arriver, quoi. Mm-hmm. Et mais t'as l'air sur la très bonne voie, donc je touche le sol pour toi. Il y a des courses quand même qui te font que t'as envie de faire une fois dans ta vie, ou que t'as envie d'essayer, ou des pays dans lesquels t'as envie de courir, ou des montagnes sur lesquelles t'as envie de crapahuter. Il y a peut-être des projets, tu vois, sans faire des objectifs ultimes, mais des choses qui te donnent envie.
Ouais. Bon, déjà, ça fait plusieurs années que l'été, j'ai envie de faire le GR5. Bon, la traversée des Alpes, quoi. Donc ça, j'espère que je trouverai le temps de le faire.
Okay.
Bon, c'est un petit... ça, sans, enfin, c'est même pas une compète ni rien.
Attends, pour rappel, le GR5, il va de où à où ?
Eh ben, de Lac-Léman, enfin, voilà, Genève, tout ça, jusqu'à la mer, à Nice, enfin, Menton, Nice. Donc ouais, cette traversée là, elle me donne envie. Enfin moi c'est celle-là, hein, parce que je crois qu'il est peut-être même encore plus long, mais moi c'est de là. Là.
Bah il me semble après ouais que ça repart un peu en Italie et tout.
Voilà bah moi je m'arrêterai à Nice. Donc non bah après les courses. Déjà j'ai pas trop envie de recourir chaque année les mêmes courses, même si bah ouais on est amené un petit peu dans tous ces circuits qui reprennent un petit peu les mêmes courses à le faire. J'aime bien l'idée de me dire de découvrir des nouveaux lieux à chaque course tant qu'à faire. Donc ben par exemple là je vais faire qu'est-ce que je vais faire? Bah cet été alors les championnats d'Europe et après les championnats d'Europe je vais faire l'OCC, donc c'est une des courses de l'UTMB que j'ai encore jamais faite, donc voilà je me dis j'ai envie de la cocher, mais c'est pas ce genre de course que j'ai envie de refaire plein de fois parce que du coup je sais pas, je me dis c'est dommage de se cantonner à un seul parcours à chaque fois, alors peut-être que je serais amenée à la faire plusieurs fois, mais voilà l'idée c'est de varier. Si je vais plus tard sur du plus long, c'est sûr qu'il y a des ultras, des choses comme ça qui donnent envie. En course, si une qui me donne bien envie, parce que je suis allée au Pays Basque espagnol et que c'était trop bien, bah c'est Zegama. Du coup, Zegama, j'avais fait donc Gorbeia Souzienne, ça s'appelait, et l'ambiance était déjà folle et les paysages étaient déjà fabuleux. Donc je me suis vu que tous les organisateurs me disaient viens faire Zegama, tout ça, ça m'a donné vraiment envie parce que il y avait une ferveur autour du trail et en voyant les images de Zegama, enfin ça a une certaine renommée, donc ça me donne envie. D'un point de vue compétitif aussi, donc Zegama et Sirzinal forcément parce que c'est une classique où en plus contrairement à d'autres courses, t'as le chrono qui est, tu vois, tu peux un peu te le rapprocher comme les courses de route où voilà un 10 kilos, je veux faire tel temps. Bah au final, il y a un peu de ça avec, il y a carrément ça avec Sirzinal. Donc c'est bien, ça permet de auto-référencer ta performance en te disant, ok, moi mon but c'est de faire moins de 3 heures, c'est génial. Ouais. Ça change de cet objectif de classement, de place à chaque fois. Là au moins, je trouve que c'est une bonne manière d'envisager différemment les courses.
Ok, ouais.
Voilà. Mais sinon, de manière générale, j'ai aussi envie de m'entraîner à plusieurs endroits variés. Par exemple, aller un petit peu vers Font-Romeu, un peu dans les Alpes, varier un peu les lieux d'entraînement.
Ouais.
Et après, les courses... au final, du coup, quand tu me dis s'il n'y avait pas de compétition, est-ce que tu serais bien ? Je crois que je serais bien parce que, tu vois, au final, j'accorde même pas tant d'importance que ça au lieu de la course parce qu'au final, tu es là pour... voilà, tu t'es préparé pour cet objectif et là où tu vas prendre clairement le plus de plaisir, ça va être dans ta préparation et l'accomplissement de cette préparation. Mais voilà.
Bah ça fait une bonne bucket list quand même.
Oui, il y a toujours, et puis voilà, il y a un copain qui va te parler de ça, tu vas faire ah ouais, j'ai envie. Donc ça vient comme ça aussi, ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est toujours une histoire de choix et de priorisation.
Pareil, l'année dernière, il y avait une course dans les Dolomites, on m'en a tellement parlé de ces Dolomites qui sont magnifiques, je me dis faudra un jour que je fasse la course des Dolomites. Donc ouais, il y a plein de c'est beaucoup avec le bouche à oreille, en discutant et en voyant les images.
Ouais, et puis des fois, c'est aussi des opportunités de rencontres, des opportunités de la vie, quoi, tout simplement, qui se présentent et qui deviennent des moments incroyables, quoi. Ouais. Donc,
c'est clair.
Et peut-être que tu aurais pas pensé à quelques mois avant, quoi. Donc, trop bien. Je vois que le temps file, il faut que je te libère pour ton footing et ton entraînement avant que le soleil se couche. On a le temps. Mais est-ce que tu lis un peu? Comment est-ce que tu t'inspires? Où est-ce que tu vas chercher de
l'inspiration? Je lis, alors là dernièrement, j'ai lu des trucs très légers, et le dernier bon livre en date je saurais même pas trop trouver le nom. Je saurais pas retrouver. Mais oui, je lis un petit peu. Je regarde quelques films, mais pas des masses hein, quand même. Enfin, faut vraiment que je me pose, je me cale en me disant, allez, ce soir, genre dernièrement, j'ai regardé les deux Kill Bill, voilà. J'avais jamais vu Kill Bill, c'est fou. Donc, ça, j'aimerais bien avoir ma petite filmographie, la remettre un peu à jour, parce que je pense pas avoir une grande culture cinématographique. Après, sur YouTube, des fois, je me perds un peu sur des pages de gens... Comme je disais, la Seb Lafrit, je crois, c'est ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ça m'inspire beaucoup. Quand il analyse un peu les vies des artistes. Là, il a fait Bob Marley, Snoop Dogg, tout ça. C'est incroyable. En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est quand les gens retracent un peu les histoires des stars ou enfin des artistes. Ouais. C'est inspirant, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a quelques chaînes aussi qui le font sur de l'outdoor avec des grimpeurs ou des Himalayistes ou des Himalayistes, des alpinistes et tout. Mm. Donc je pourrais t'en recommander si ça te dit. C'est un peu dans le même genre. Ça a pas le style de Seb qui est un peu inimitable aujourd'hui. Mm-hmm. Et ouais, je suis assez impressionné moi par la qualité de ce qu'il fait.
C'est clair.
Et là, récemment, il a été très visible parce qu'il a fait son calendrier de l'avant là où il a essayé de produire 25 vidéos en 25 jours. Mais sinon, il était plus reconnu comme le youtubeur qui fait très peu de contenu, qui fait presque une vidéo par mois et à l'inverse de tous les autres qui sont dans une course un peu effrénée.
Ouais.
Donc moi, il m'inspire un peu dans cette sagesse. Déjà, il a duré parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est là, tu vois.
Ouais, ouais.
Et dans cette sagesse à pas vouloir être toujours plus, tu vois, pour plutôt se concentrer pour faire les choses bien, quoi.
Ouais.
Donc, carrément. Je comprends que ça soit une belle source d'inspiration. Écoute, trop bien. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir est-ce que c'est un passage de micro, voilà.
Okay.
Et c'est de savoir à qui tu tends le micro pour aller l'écouter pendant une heure et demie sur une terrasse, à Grenoble ou pas à Grenoble, ça peut être partout. Ça peut être une traileuse, un trailer, mais pas que. Ça peut être un ami, une amie, mais ça peut être aussi un ou une athlète que tu ne connais pas et que t'aimerais découvrir. Donc, tu as carte blanche. Tu peux même me citer plusieurs personnes, ça serait
Ben, la première personne qui me vient à l'idée, dans la tête, c'est une super amie et super athlète, donc je pense que ça peut faire le compte. C'est Manon Ostens, qui fait donc du kayak de course en ligne, qui va participer aux Jeux Olympiques, normalement, enfin je crois, de Paris 2024. Et voilà, c'est une super personne, originaire de la Dordogne, donc je sais pas si t'es déjà allé à Verpéry. Par là-bas.
Très sympa comme spot. Allez, c'est parti.
Voilà, Manon, elle est très chouette et elle aura plein de choses à dire, j'en suis sûre.
Allez, je lui envoie un petit message que ce soir quand je suis dans le train. Allez.
Trop bien.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était un super moment. Donc, à tous les auditeurs et les auditrices, surtout allez suivre Clémentine si ça vous a plu, envoyez-lui un petit message pour la remercier, l'encourager. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, moi je te dis à très bientôt parce que comme on dit par chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
À bientôt. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.